Alors on va lire un verset dans Jean au chapitre 16 et au verset 33. Notre Seigneur, il nous connaît. Il sait que nous sommes dans des temps compliqués. Vous savez que c'est des temps compliqués et que les temps vont faire en se compliquant davantage. Je suis en train de faire une étude sur l'Apocalypse et vous savez, quand les trompettes sont les malheurs des trois dernières trompettes, il nous est dit que le puits de l'abîme va s'ouvrir et qu'il y a des démons qui sont bloqués dans cet abîme. Et heureusement, parce qu'apparemment, ils ont l'air furieux. Il va se passer des choses terribles après l'enlèvement de l'Église. Je ne pense pas qu'on étudie ces choses. Vous voyez, cette semaine, je réfléchissais aux sept tonnerres. Quand Jean a commencé à écrire, l'ange dit « Non, on n'écrit pas. » On sait les sceaux, les colères, les trompettes, les coupes, mais on ne sait pas ce que sont ces sept tonnerres. Mais je peux vous assurer que quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, ça vous encourage à ne pas vivre ces moments, donc à être enlevé avant, croyez-moi. Et le Seigneur, il sait que des temps terribles viennent sur la terre, terribles. Nous sommes dans ces temps d'apostasie, nous sommes dans ces temps compliqués. Et le Seigneur, vous remarquerez, si vous lisez l'évangile de Jean, souvent il dit « Je vous ai dit ces choses ». Vous savez, il n'a pas fait que donner sa vie sur la croix, ce qui est le top du top. Mais il a également pris le soin de nous dire des choses et de nous dire des choses. Et entre autres, Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pourquoi j'ai parlé de l'Apocalypse? Justement par rapport aux tribulations. Parce qu'il y a les tribulations que nous avons, toute notre vie, depuis que l'histoire existe, depuis que l'homme est sur la terre, depuis que le péché est entré sur la terre. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre la tribulation que nous vivons et la grande tribulation de l'Apocalypse qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Donc, le Seigneur le dit, je vous l'ai dit, je vous dis ces choses. Il sait ce qu'il a à vous dire. Par contre, est-ce qu'on est prêt à écouter? Est-ce que ce matin, vous êtes prêt à écouter? Vous êtes prêts à écouter combien le Seigneur il veut que vous preniez courage? C'est le titre de ma prédication, prenez courage. Nous sommes dans ce temps particulièrement compliqué. L'amour diminue. C'est une prophétie ça, à cause de l'iniquité. Vous connaissez la suite? Qu'est-ce qui est écrit? L'amour du plus grand nombre, il n'est pas dit. Il y en a cinq ou six par église qui vont se refroidir. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà terrible. Mais c'est des prophéties qui devraient nous faire réfléchir. L'amour du plus grand nombre. C'est Jésus qui parle. Ça devrait tout nous interpeller, dire, mais est-ce que je fais partie de ces gens qui sont en train de se refroidir spirituellement? Est-ce que je suis un religieux qui va au culte juste pour croire que Dieu est avec moi? Nous sommes là, l'égoïsme, c'est un fléau, l'égoïsme. Bien sûr que c'est prophétisé dans les derniers jours, les gens, les chrétiens, seront égoïstes. C'est un fléau. L'égoïsme, ça vous détruit un foyer. Ça détruit une vie, les gens qui ne veulent plus se donner. Et on pourrait multiplier ces comportements qui sont expliqués par les prophéties bibliques, par les paroles de Jésus, par l'apostasie, l'abandon de la foi. Et dans tout ce marasme archi-compliqué qui se présentera avant l'enlèvement de l'Église, le Seigneur a des choses à nous dire. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Ne faites pas partie de ces gens. Oh, pourquoi Dieu, dans le livre de la Genèse, ne nous aurait pas davantage expliqué la création? À quoi ça nous aurait avancé? À quoi ça vous aurait avancé? Mais oui, mais les jours, c'est des jours de 1000 ans ou c'est des jours de 10 000 ans? Les stalagmites, elles ont mis combien pour... Il paraît que les stalagmites... grandissent d'un centimètre par siècle, donc si elles font 80 mètres, est-ce que c'est des jours de 20... Écoutez-moi. Quand Dieu a créé la Terre, je pense que ça ne devait pas être un gros problème qu'il crée des stalagmites de 80 mètres. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est important que les jours soient de 24 heures, de 1000 ans, de milliards d'années? Est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. Dieu a créé les cieux et la Terre. Mais il a créé votre cœur. Et il sait surtout ce dont vous avez besoin. Que les jours fassent 24 heures de la Genèse, des jours de la création ou qu'il fasse 1000 ans, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez une parole qui va vous permettre de tenir ferme, de tenir debout, d'être des vainqueurs, d'être des chrétiens armés, car le courage, on peut le perdre. Dans Nombre 21.4, ne le cherchez pas, mais peut-être pour ceux qui prennent des notes, Nombre 21.4, le peuple perdit courage en chemin. Ça peut arriver de perdre courage. Oui ? Qui a déjà perdu courage ? Levez la main. Il y en a, c'est bien, j'entends. Il y en a, mais c'est bien. Je vous admire. Moi, ça m'est arrivé de perdre courage. Il n'y a que quelques-uns qui me disent, mais ça m'interroge, ça m'interroge. On va refaire le test. Qui a jamais perdu courage ? La question l'avait. Ah bon, ça va, ça me rassure. Non, mais ça va. Ça va. On a tous des moments difficiles. Tous des moments où on pleure. Tous des moments où on est faible. Vous savez, ce matin, cette prédication, j'ai que l'embarras du choix de prendre des textes pour comprendre combien le problème du découragement est un problème sévère. Sévère. Surtout que la Bible dit que l'homme, il est tel que sont les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Et si vous deviez, tiens, si vous deviez résumer votre vie en 10 lignes, qu'est-ce que vous écririez ? En 10 lignes, voilà, il vous faut résumer votre vie. Qu'est-ce que vous écririez ? En 10 lignes, je suis sûr que d'une manière générale, à quelque chose près, on écrirait presque tous la même chose. Ma vie a été faite de bons moments et de mauvais moments. Ma vie a été faite de joie. Ma vie a été faite de pleurs. Ma vie a été faite de naissance autour de moi. Ma vie a été faite de deuil, oui ou non ? Etc. Ma vie a été faite d'expériences joyeuses. Ma vie a été faite d'épreuves douloureuses. C'est pas un peu comme ça qu'on décrirait notre vie ? Si, franchement, à peu près tous pareils. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations. Les évangélistes, et il y en a peut-être qui m'entendront par le biais d'Internet, qui disent que quand on est chrétien, on n'a plus de problèmes, qu'on est heureux et qu'on a pris de problèmes, c'est pas vrai. On est peut-être heureux, mais on a des problèmes. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Et c'est mentir aux gens que de leur dire, si vous donnez votre cœur à Jésus, vous n'aurez plus de problèmes. C'est une ânerie des plus grosses qui existent. Ce n'est pas vrai. La colère de l'agneau, c'est une vérité. Cette colère va s'intensifier. Je plains les chrétiens qui sont appelés dans la Bible les vierges folles. Je les plains. Ceux qui n'ont pas pris le temps de veiller, puisque l'exhortation qui termine la prophétie des vierges folles et sages, c'est veiller. Donc, il y a des chrétiens qui ne veillent pas et qui ne seront pas enlevés. Mais déjà, il y a quand même sur la terre des chrétiens, il y en a certainement parmi nous, des gens qui veulent prendre courage. Vous savez, prendre quelque chose. C'est un acte de foi. Monsieur Blanc le rappelait tout à l'heure, Lucas le rappelait dans les cantiques. Oui, Dieu donne, mais c'est à nous de prendre. Dieu ne dit pas, je vais vous donner du courage. Dieu dit, prenez courage. C'est sérieux, il faut faire attention. Il y a des chrétiens qui sont toujours découragés. C'est sûr que le diable en profite. Dans le livre d'Oswald Smith, je sais pas, vous connaissez Oswald Smith ? C'est des noms canadiens, ça ne me fait anglais. C'est un pasteur canadien qui a écrit un livre sur la passion des âmes. Je ne sais pas si vous l'avez, on l'a eu ici, je crois. Et à un moment donné, il part de l'église. Et il donne une histoire. Elle m'est revenue à l'esprit quand j'ai préparé cette prédication. Il donne une histoire de Satan qui invite plusieurs de ses démons pour détruire un chrétien. Alors il y a un démon, alors ils sont là, ils sont plusieurs. J'ai une idée. Alors le diable dit, c'est quoi ton idée ? Ah ben je vais lui montrer les délices du péché. Et il va tomber dedans. Le diable dit non, ça ne marchera pas. Il sait ce qu'est la sainteté, ce chrétien. Il sait ce que c'est l'obéissance. Ça ne marchera pas. Il y a un autre démon. Si, j'ai une autre idée. Je vais lui montrer toutes les difficultés qu'un chrétien rencontre, les épreuves, etc., etc. Ça va le faire chuter. Non, ça ne marchera pas. Il sait la joie de l'intégrité. Ça ne marchera pas. Et il y a un troisième qui dit, ça y est, moi j'ai une idée. C'est quoi ton idée ? Je vais le décourager. Et le diable répond, vas-y, ça marchera, ramène la victime. Et cette histoire, c'est une histoire qui indique qui enseigne sur la vie de l'Église, mais elle est valable pour introduire ma prédication, le découragement. C'est terrible, le découragement. Vous savez, il y a des épreuves. Quand vous lisez la Bible, on n'a pas toujours le discernement. Viennent-elles de Dieu? Ces épreuves viennent-elles du diable? C'est vrai que ce n'est pas évident. Oui ou non? Vous n'êtes pas comme moi? Viennent-elles de notre péché? Parce que les épreuves, en vérité, elles viennent ou du péché, ou de Dieu, que Dieu peut permettre une épreuve. Est-ce que Dieu peut permettre une épreuve? Mais oui, nous on est là. Et de l'ennemi, avec l'autorisation de Dieu. Mais les épreuves, elles peuvent venir. Après, je ne crois pas que c'est important de savoir si elles viennent de là ou de là. À part si ça vient de notre propre péché, c'est bien quand même de savoir. Mais ce qui est important, c'est de bien réagir dans l'épreuve. Mais le découragement, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne nous a pas donné cette vie, cette foi, cette espérance, cet amour, pour rien. Il y a des choses, c'est le diable qui les génère. Et le découragement, ça ne vient pas de Dieu. Le diable, il est fort, hein. Vous savez, il est appelé, c'est Jésus. Jésus dit, le diable s'appelle le... Comment il s'appelle ? Jean 10. Dans Jean 10. Je vais voir si vous connaissez. Non, ce n'est pas dans Jean 10, c'est dans Jean 8. Oui, le père de Manson, c'est Jean 8. Le voleur. Jésus dit, le diable, c'est un voleur. Il l'appelle le voleur. Et croyez-moi, il porte bien son nom. On vous a déjà volé quelque chose? Est-ce qu'on vous a déjà volé? Non? Oui, on peut vous avoir volé. C'est quand vous vous rendez compte de ce qu'on vous a volé, c'est... Ça fait mal au cœur quand même, non? Et le diable, c'est le spécialiste du vol. Et mes frères et sœurs, nous devons nous exhorter les uns les autres tous les jours, mais est-ce qu'il ne mourrait pas? Parce qu'il y a des choses, on s'en rend compte un mois après qu'on nous l'a volé. Moi, quand on m'a volé mes 10 kilos d'or, je blague. Et mes frères et sœurs, il y a des choses, ça risque pas. Hein? Mais vous comprenez, il y a des gens, ils se rendent compte un mois après, on m'a volé ça, c'est sûr. Le voleur. Et je sais que parmi nous, plusieurs souffrent. Cette souffrance, le Seigneur la voit. Elle est liée à ce fait-là, que s'il peut vous voler certaines choses, il ne va pas se gêner. C'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez chaque jour. Quand il vous vole le courage, qu'est-ce qu'il y a à la place? Oui, le découragement, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans la crainte, on est là, on a plus d'assurance, on n'a pas d'espérance. C'est vrai, quand ils nous volent le courage, on est découragé. Mais mes frères et sœurs, c'est terrible le découragement. Combien de frères et de sœurs devraient être là ce matin? Et ils se sont fait piéger. Ça a commencé par peut-être une petite déception, une petite faiblesse, je ne sais pas quoi. Mais l'ennemi a réussi à leur voler le courage. Et Jésus dit, prenez courage. Vous avez pris le pain et le vin ce matin? Est-ce que vous auriez pu ne pas le prendre? Oui, si vous ne voulez pas, personne ne va vous obliger à le prendre. Vous l'avez pris, prenez et mangez. Vous avez utilisé votre main pour prendre ce bout de pain, parce que c'est important, c'est une façon de montrer sa communion avec le Seigneur. Oui, Seigneur, je crois dans ton sacrifice, tu as donné ta vie pour moi, ce morceau de pain représente ton corps brisé. Oui, j'ai foi en toi, je continue à croire que ton sang efface mes transgressions. C'est pas magnifique ça? Je ne sais pas si on réalise que Jésus a tout effacé. Il a tout effacé. C'est ça que ça veut dire. Il a tout effacé. Prenez une concordance. Et prenez les textes où Jésus n'arrête pas de dire « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leur iniquité. » Moi, ça fait du bien. Vous ne trouvez pas que ça fait du bien? Quand vous prenez tous les textes et que vous voyez là la grandeur du sacrifice, la grandeur de la croix, toutes les conséquences, pas beaucoup de gens, ils disent, voilà, il est mort pour moi, je suis pardonné. Mais n'oubliez pas que tout peut être effacé, tout peut être pardonné, tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire amen? Est-ce que vous rendez compte? Tous nos péchés peuvent être effacés. Effacés, ça veut, vous prenez un dictionnaire, ça veut dire ôter entièrement, il n'y a plus rien. C'est bien de savoir que quand on va passer devant Dieu, tout est effacé. C'est ça le sacrifice. Alors nous sommes soucieux de certaines, vous voyez, on pourrait prendre tous les textes, on pourrait le faire, je l'ai fait hier moi, pour mon culte personnel. J'ai pris tous les textes sur le mot effacer et ne plus se souvenir, ça m'a fait un bien fou. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des sujets peut-être qu'on est plus sensibles, comme la Sainte-Seine, vous voyez, comme je viens de le résumer. Mais le courage, mes frères et sœurs. Si le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses, lisez Jean, je vous ai dit ceci, je vous ai dit cela, je vous ai dit. L'apôtre Jean reprend, je vous ai écrit. Bon, lui, il ne les disait pas, il les écrivait, je vous ai écrit, je vous ai écrit. On le voit que le souci de Dieu, c'est de nous dire, voilà, mais rappelez-vous ceci, rappelez-vous cela. Vous aurez des tribulations, on en a tous, dans tous les domaines. On en a régulièrement des tribulations. Et il faut arriver à les accepter. Ce matin, je pensais, on va le lire, j'aimerais qu'on le lise. Dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul, est-ce que c'était quelqu'un d'utile entre les mains de Dieu? L'ex-blasphémateur, eh ouais, il a dit, j'étais un blasphémateur. 2 Corinthiens chapitre 12, c'est un homme qui... Alors, est-ce que ça valait la peine que cet homme soit gardé? Vous ne me répondez pas. Si vous ne me répondez pas, j'en déduis que ce n'est plus la peine que je prêche. Est-ce que vous pensez que ça valait la peine que l'apôtre Paul soit préservé de l'orgueil? Eh bien oui. Dans 2 Corinthiens au chapitre 12, ben vous savez, vous allez me dire, oui, on n'est pas l'apôtre Paul, d'accord. Mais de la même manière, nous aussi, chacun, nous avons besoin d'être préservés de l'orgueil. Vous le comprenez? Regardez, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend de moi. Bon, si vous lisez le contexte, vous comprendrez ces paroles. Il avait été ravi au troisième ciel, c'était quand même une drôle d'expérience. Mais regardez, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Bien sûr qu'il n'avait pas envie de cette écharde, lui. Et il a prié trois fois. Et il m'a dit, le Seigneur, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La suite, c'est vous rêvez pas. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Vous avez bien lu. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que... Non mais... Soyons sérieux. Ou il est maso. Non mais sérieusement. Ou l'apôtre Paul est maso. Ou il vit quelque chose avec Dieu qui fait que il ne dépend pas de ses forces. C'est pas lui qui combat. Et d'ailleurs, il s'est écrit. Ce n'est pas vous qui devez combattre. C'est lui qui combat pour nous. Parce que quand même, c'est écrit. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que la faiblesse, c'est pas forcément un danger. Dieu lui a révélé, vous voyez, cette écharde, elle venait de Dieu, Dieu a utilisé un ange de Satan, c'est Dieu qui règne. Parce que le ministère de Paul était utile. Okay, comment ? Vous avez lu le Nouveau Testament. Et la preuve, c'est qu'encore, on est au bénéfice de ces enseignements. 2000 ans après, certainement que tous les milliers, dizaines, centaines de milliers d'églises dans le monde aujourd'hui vont parler des écrits de Paul. Cet homme était utile, mais vous aussi, vous êtes utile aux yeux de Dieu. Vous ne le comprenez peut-être pas. Alors, Paul, bien sûr, Paul a été utile pour des millions de personnes, mais si vous, et c'est sûr, si vous deviez être utile que pour le salut de trois ou quatre avant l'enlèvement de l'Église, Est-ce que ça vaut la peine que vous soyez fortifiés? Je ne sais pas si vous le comprenez. Dieu, il a un plan pour chacun, oui ou non? Demain, il y a peut-être un voisin. Peut-être que dans 3 semaines, il y a un de vos voisins qui va partir dans l'éternité. Est-ce que ça peut se présenter, ça? Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr. Peut-être que demain, après-demain, demain soir, demain matin, en sortant pour aller récupérer votre courrier, je ne sais pas, il va se passer que vous allez avoir votre voisin, pas loin de chez vous. Peut-être qu'il y a juste besoin d'une parole. Mais mes frères et sœurs, quand Paul dit « mais je me plais dans les faiblesses », laissez-moi vous dire que c'est un homme qui a accepté les épreuves. Il sait très bien que ce n'est pas parce qu'on est fort. Bien sûr que c'est bien d'être fort, il le dira plus loin. Aux Philippiens, il dira « mais je puis tout par celui qui me fortifie ». Puis là, il dit « mais je me plais dans les faiblesses ». Parce qu'il a appris une chose, c'est que ce n'est pas lui qui combat. C'est pour ça qu'il appelle le combat « le bon combat ». Moi, ça a été une lutte longtemps, ça. Le bon combat de la foi. Moi, je me disais, le bon combat, c'est pas si bon que ça, le bon combat. Oui, quand nous, on combat par nos forces, c'est un mauvais combat. Mais quand c'est Dieu qui combat pour nous, c'est un bon combat. Et nous sommes là, sous le regard du Seigneur, Dieu sait ce qu'il va arriver, les choses vont empirer, vous le savez ça. C'est un scoop pour certains? Non. Les choses vont empirer. Les gens, comme je le disais hier au mariage, ne choisissent pas la bénédiction. Pas nous. Nous, en étant ici, en obéissant, on choisit la bénédiction. Mais d'une manière générale, notre pays a choisi la malédiction. Les dernières lois qui ont été votées, écoutez-moi si vous les avez un petit peu regardées, prouvent que l'homme a choisi la malédiction. Dont les choses vont droite vers la colère. Mais nous, nous serons sauvés de la colère. Et non seulement nous serons sauvés de la colère, mais en même temps nous devons dire, Seigneur, que je sois dans la faiblesse. Ce qui est important, c'est que tu combattes pour moi. Ce qui est important, c'est que je garde ce courage. Regardez un peu en avant, dans le livre des Actes. Vous connaissez cette affaire. Dans le livre des Actes, Paul et Silas ont prêché. Ils ont prêché dans une ville qui s'appelait Philippe. Et au début c'était bien. Et puis à la fin, c'était moins bien. Et il y a des gens qui se sont énervés contre Paul et Silas lorsqu'ils ont prêché. Le résultat, eh bien on va lire le résultat. Acte 10, 16, verset 22. Regardez ce qui se passe. Ils prêchent l'évangile, ça ne plaît pas à tout le monde, et on va leur taper dessus. Acte 16, verset 22. Vous y êtes ? La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Imaginez-vous la scène. Notre frère Monsieur Blanc ce matin était ému, parce qu'il vivait cette affaire. Mais imaginez-vous, bon, on ne connaît pas Paul et Silas, mais imaginez-vous, c'est de pasteurs qu'on connaît. On leur arrache les vêtements, on les bat, on les a battus. Ils devaient saigner, ils avaient des plaies, on le verra la suite, on le prouve. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Une prison intérieure, c'est une prison sans fenêtre, sans rien, à l'intérieur du bâtiment. C'est dans des caves, souvent. Il y a des prisons et des fenêtres. Mais là, une prison intérieure, c'est une prison entièrement noire. Il n'y a pas de fenêtre. Ça vous donne un peu l'idée où ils étaient. Ils étaient dans le noir entier, en pleine nuit, chargés de coups, blessés, attachés. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, qui indique également les ténèbres, Paul et Silas écrivaient un fax pour démissionner de l'action missionnaire. Non? Ah, pardon. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On va voir si ça plaît à Dieu, ça. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Vous voyez comment Dieu connaît l'échelle de Richter pour ouvrir les... Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous lirez la suite, c'est quand même bien. Est-ce que vous vous rendez compte? Quel témoignage! Ils sont dans la prison intérieure, dans le noir, c'est la nuit, blessés, attachés, ils chantent. Pourquoi ils chantent? Ils se disent, on va chanter. Est-ce que c'est de l'autos, comment on appelle ça, de la méthode Coué? Ou est-ce qu'ils avaient confiance en Dieu? Ces choses, elles ont été écrites, mes frères et sœurs. Elles ont été écrites pour notre bien. Peut-être que vous êtes enfermés, je ne sais pas. Vous savez la vie. Que Dieu nous garde de ne pas juger. Parce que nous serons jugés avec la mesure qu'on utilise. Il y a des gens, vous voyez, ils sont emprisonnés parce qu'ils ont fait le bien. Il y a des fois, on est enfermés, attachés, blessés. On a voulu faire le bien. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Et on se trouve là, enfermé. Alors, bien sûr qu'il y a la réaction de dire, c'est pas juste. C'est pas juste. On l'entend souvent, ça. C'est pas juste. Et alors? Vous croyez que c'était juste, le procès de Jésus? Rien que ce, je ne parle pas de sa crucifixion, je parle juste du procès. Il n'a pas dit c'est injuste. Vous savez, Dieu fera justice. Vous avez subi une injustice, 2, 10, la Bible est catégorique. Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Il leur fera promptement justice. Ça sera ici-bas, ça sera dans l'éternité. Faites-lui confiance. Dieu fera justice à ses élus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en inquiétez pas. Mais mes frères et sœurs, ces exemples, ils sont là. Vous savez, le courage, c'est important. Je crois qu'on est, je ne sais pas où on en est. Moi, des fois, vous savez, je suis là sur l'estrade, mais je peux vous dire que des fois, je me demande même si je devrais y être. Je le dis franchement. Parce que moi aussi, j'ai des pensées et je peux avoir parfois même des paroles. Je me dis, qu'est-ce que tu fais sur l'estrade? Mais je sais que nous avons un Dieu qui nous aime et qui sait ce qu'il a à nous dire. Et que même si vous êtes enfermé ce matin et que vous dites, mais il n'y a aucun moyen, oui, il n'y en a aucun, humain, est-ce que vous croyez que Paul et Silas étaient des chouchous de Jésus? Ou est-ce que vous croyez que nous sommes tous sur le même pied d'égalité? Et je ne sais pas mes frères, je ne sais pas comment vous le dire. On voit des prophéties, je pense dans Ésaïe 40, il y a une prophétie qui est donnée. Et Dieu dit, voilà, que chacun console son frère. Consolez mon peuple. Et le fondeur encourage le sculpteur. Vous connaissez cette prophétie dans Ésaïe 40, 41 ou 44? C'est dans Ésaïe, je sais. Que chacun encourage son frère. Mais pour encourager quelqu'un, il faut recevoir du courage. Parce que c'est bien joli. Allez, prends courage. Hein. Prends courage. Hein. Prends courage. Et s'il y a des prophéties qui nous demandent d'exhorter les autres, mes frères et sœurs, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça valait la peine que Paul et Silas, parce qu'ils auraient pu passer la nuit à se plaindre, tu te rends compte? Non, ils ont chanté. Je ne sais pas si ils ont chanté. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Vous aimeriez savoir? Comment ils ont prié? C'était quoi? Parce que la prière, ça résume toute l'intercession. Quand on loue, quand on loue le Seigneur, c'est une prière. Quand on adore, c'est une forme de prière. Quand on est dans le silence, peut-être que vous n'avez pas prié à haute voix ce matin. Est-ce que vous avez remercié le Seigneur dans le silence? Oh, mais Dieu l'a entendu. Toute la contemplation, c'est une forme de prière. Comment ont-ils prié? Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils connaissaient Dieu. Et c'est là justement qu'on va saisir un commandement. Est-ce que je crois que Dieu peut ouvrir les portes des prisons? Est-ce que je crois que Dieu peut me sortir de cette cellule? Est-ce que je crois que Dieu peut me sortir du noir dans lequel je suis plongé, dans lequel les hommes m'ont mis? Parce que le problème de l'épreuve, c'est pas quand ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, on est presque content. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pigé que Dieu utilise les gens pour nous éprouver. Si ça vient directement de Dieu, on est content presque. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est comme les médicaments. Il y a une boîte. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu utilise les gens. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous éprouver? Est-ce que Dieu peut utiliser un pécheur, un inconverti? Là aussi encore, bon, c'est de bonne guerre. L'inconverti, c'est normal, il est dans les ténèbres, moi je suis dans la lumière, c'est normal. Est-ce que Dieu peut utiliser un ami?
Un ami? Non mais monsieur Gou.
Est-ce que Dieu peut utiliser un ami? Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui nous montre que Dieu peut utiliser un ami pour nous... Il est où ce texte dans les psaumes où David parle d'un ami? Regardez ce texte, on va le lire ensemble. C'est dans... Alors, aïe, aïe, aïe. Alors, il est où ce psaume? Purée, c'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai besoin de congé, le conseil. Mais... Ça devrait vous éveiller des pinces. Ah, je veux qu'on le trouve, ce texte. C'est Paul qui dit, mais si c'était un ami qui m'outrage, je le supporterais. Personne ne m'aide. Oui, c'est bien qu'on le lise. Ah oui, psaume 55. Regardez ce texte. Parce que qu'on soit éprouvé par les ennemis, c'est de bonne guerre. Qu'on soit éprouvé par le patron... C'est presque de bonne guerre, il y a un fossé. D'accord? Psaume 55, verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Et voyez, il est là dans ce combat. Un ami a provoqué. Est-ce quand ça arrive dans le couple? Est-ce qu'un mari? Est-ce qu'une épouse? Est-ce qu'un ami, un conjoint peut arriver à vous éprouver? Vous êtes bien discret. Soyez honnête, parce qu'il faut être honnête. Il faut être honnête. On est devant Dieu. Et ouais, Dieu peut utiliser toutes sortes de situations. Et heureux sont ceux qui peuvent, heureux, mais vraiment je le dis avec, comment dirais-je, avec joie. Parce qu'on pourrait prendre plein d'exemples. Moi, j'ai que l'embarras du choix. Mais c'est vrai, c'est... Mais j'ai que l'embarras du choix. Vous ne pouvez pas comprendre l'épreuve. À tel point que même lorsqu'un jour, pour vous dire comment on est blindé par la religion, lorsqu'un jour les apôtres se retrouvent, vous savez, où c'est qu'ils étaient, ils se retrouvent au bord d'un chemin, il y avait un aveugle. Et les apôtres, les pasteurs, ont posé la question à Jésus, mais qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Pour vous dire comment on est... On est ancré dans la religion. Bien sûr que tout vient du péché, toute la maladie. Mais vous rendez-vous, qui c'est qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça voudrait dire qu'il aurait péché où? Dans le ventre de sa mère. Est-ce qu'on peut pécher dans le ventre de notre mère? Bien sûr que non. Et Jésus va dire, mais c'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifesté. Quand les amis de Jésus, les amis, c'est écrit, que Marthe, Marie et Lazare étaient des amis de Jésus. Jésus a aimé se rendre à Béthanie. Il aimait, c'est un endroit où il aimait se rendre. Il avait des amis, des vrais amis. Et quand il apprend que Lazare est mort, Il dit, je reste 2 jours. Et je me réjouis de ce que j'étais pas là. J'imagine la tête des apôtres. Son ami, il meurt, et il se réjouit qu'il n'était pas là. Lui, il ne comprend pas les épreuves, c'est compliqué les épreuves. Mais il savait ce qu'il faisait. Vous croyez qu'il savait ce qu'il faisait, Jésus, par rapport à Lazare? Et vous croyez que Dieu, il se moque de vous, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous êtes enfermé dans votre prison intérieure, il n'y a même pas de la lumière. Peut-être que vous êtes là avec vos plaies, il n'y a personne qui vous soigne, personne ne m'aide. Je suis blessé, je préférerais, comme on dit, des fois on dit, il aurait mieux valu qu'il se coupe une jambe. Mais c'est vrai, parce qu'il y a des blessures intérieures qui sont plus douloureuses que des blessures physiques, mais on le sait ça. Mais il y a un état de cœur, des gens qui sont capables de dire oui Seigneur, toi, tu permets l'épreuve ici, là. Tu me dis ce matin, si tu me parles par ton serviteur, de prendre courage. 2 mots. Est-ce qu'avec 2 mots, Dieu peut guérir quelqu'un? Moi, je le crois. Dieu dit, prenez courage. Si je vous parle parce que c'est moi, votre pasteur, votre frère, c'est bien, ça prouve que je veux vous faire du bien. Mais il y a mieux, si ça vient de Dieu, et je le crois vraiment, vous allez faire une expérience. Je suis dans la faiblesse, oui je suis faible. Et alors, Paul disait je me plais dans la faiblesse. Non mais je ne sais pas si vous réalisez, ce n'était pas une figure de style, c'est la vérité. Parce qu'il savait qu'en faisant confiance, Dieu combattrait pour lui. Alors c'est vrai, je ne suis pas trop en forme physiquement. Tu vois Seigneur, je ne suis pas trop en forme spirituellement. Mais je veux te glorifier. Je veux te glorifier. Et pour les Silas, je trouve que c'était bien. Que ça a bien marché quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est beau? Quel exemple! Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez un recueil de cantiques à la maison. Vous en avez un recueil de cantiques? Peut-être que vous ne connaissez pas les paroles, la musique. C'est mieux peut-être. Mais vous pouvez peut-être les lire. Moi, ça m'arrive des fois de prendre des cantiques. Dans mon bureau, je me mets à genoux et je les lis. Ce que je sais, je chante pas trop fort parce que la maison me dit que je chante pas trop bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment? Oui, mais tu le dis, c'est quand même. Qu'on chante faux ou pas faux, c'est pas grave. Mais on peut de tout son cœur dire, Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, si vous prenez la concordance, rien que les textes, je disais tout à l'heure, effacés. Vous savez, quand on passera devant Dieu, ça va faire du bien de savoir que tout a été effacé. Tout. Tout péché sera effacé. Ça vaut pas la peine de le louer? Vous savez, quand je vois moi la liste des héros, quand je vois Samson, Samson, il fait partie des héros de la foi. Vous l'auriez mis, vous, sur la liste des héros de la foi? Allez, répondez-moi. Aidez-moi, parce que les stagiaires, ils ne sont pas là. Il faut que je sache. Vous l'auriez mis sur la liste des héros de la foi, Samson, vous? Non. Est-ce que vous l'auriez mis? Moi, je ne l'aurais pas mis. Pour moi, il a failli. Mais tout a été effacé, parce qu'il s'est vraiment repenti. Oui, ça vaut la peine de dire, Seigneur, je suis fort, c'est bien. Je suis faible, ben c'est bien. Je veux chanter, je veux prier. Mes frères et sœurs, si Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais vous savez, comme disait Lucas tout à l'heure, il y a des gens, quand ils sont bénis, ils abandonnent Dieu. Il y en a plein, non? Quand ils sont bénis, ils abandonnent Dieu. Vous le savez, ça? Mais il y en a plein. Je pense que bibliquement, il y en a 9 sur 10. Et ça n'a pas changé depuis. Sur les 10 lépreux qui sont venus, il y en a combien qui sont revenus? Ça n'a pas changé. Sur 10 personnes bénies, il y en a une qui revient s'occuper de son péché. C'est comme ça. C'est ne forcez pas les gens à venir, ça ne sert à rien. Ils ne resteront pas. C'est de cœur qu'on cherche, qu'on aime Dieu. C'est avec le cœur. Mais mes frères et sœurs, si Dieu m'a inspiré, vraiment, si Dieu m'a inspiré ce matin, Prenez au sérieux ce verset de Jean 16, 33, qu'on a lu au début. Je vous ai dit ces choses. Vous savez, moi je bénis Dieu qu'on sache ce que Jésus a dit. C'est quand même merveilleux. Oui ou non? Ce qu'il a dit, parce qu'il a fait, n'en parlons pas, mais ce qu'il a dit, il l'a dit, ça sort de sa bouche. Ce pain qui sort de la bouche de Dieu. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Dieu est un Dieu de paix. Vous serez épargnés de la colère, mes frères et sœurs. Alléluia. Tout ce qui va arriver, vous ne le vivrez pas si vous êtes une vierge sage. Mais en attendant, soyez en paix. Vous êtes faible, c'est pas grave. Un ami vous a enfermé dans une prison. Eh bien, bon, mais bien sûr, c'est pas marrant. Mais je vais chanter et prier. Alors ne chantez pas et ne priez pas. Pour dire, tiens, il nous a dit qu'il fallait chanter et prier. Ça y est, on a une nouvelle méthode. Non mais, vous savez ce que je vous dis, c'est grave. Parce que c'est la vérité. Il y a des gens, ils ont des méthodes. Comme Abraham, vous savez, quand sa femme était stérile, lui ne pouvait plus avoir d'enfant. Vous savez, il ne pouvait rien faire. Il a glorifié Dieu. Et il y a des gens qui disent, vous avez dit qu'il fallait glorifier Dieu. Je vais glorifier Dieu. Non, c'est avec le cœur que ça se passe. Tu me demandes de prendre courage, eh bien, tous les matins, la première chose que je ferai, c'est de prendre courage. Comment vous prenez votre cafetière pour prendre un café? Vous ne prenez pas les choses le matin? Vous prenez vos clés, vous les prenez, elles ne viennent pas toutes seules dans la poche. Vous les prenez. Il y a un acte, physiquement, si, voilà, moi je vais partir, je vais prendre mes lunettes. Voilà, elles ne vont pas venir toutes seules dans mon étui. Quand Dieu dit « prenez courage », ça indique qu'il y a un verbe actif. Ça veut dire « je dois faire quelque chose ». Seigneur, je vais lire un psaume. Et je vais, cette nuit, je ne dormais pas. Et je dis au Seigneur « parle-moi, Seigneur, parce que moi, j'ai besoin qu'il me parle aussi ». Et j'ai lu le livre d'Esther. Comment Dieu change les choses. Comment Dieu peut changer les choses. C'est un truc de fou. Comment Dieu peut changer le mal en bien. Lisez le livre d'Esther et vous verrez que je n'exagère pas. Mes frères et sœurs, prenez courage. Faites un acte de foi. Demain, recommencez à lire la Bible avec cœur. Et un mot. Dis un mot, Seigneur, et ton serviteur sera guéri. Peut-être que vous allez lire la crucifixion, quand Jésus dit les trois mots les plus importants qui ont jamais été prononcés de l'univers, les trois mots les plus importants qui ont été jamais dits sur la terre, c'est « tout est accompli ». Mais rien que ces trois mots peuvent vous guérir. Oui ou non? Tu as tout accompli. Pour que ça se passe bien, lorsque je passerai devant toi. Alors Seigneur, oui, les amis m'ont emprisonné. J'aurais supporté ça de lui que je ne connais pas, de mon patron qui m'énerve. Mais de mon ami, je ne le supporte pas. Eh bien si, je vais le supporter. Je vais l'accepter. Alléluia. Vous êtes d'accord qu'on termine en disant, Seigneur, nous aussi on va apprendre dans l'épreuve. Quand je suis arrivé à Sainte-Anne, il y a 17 ans, j'ai fait une dizaine d'études sur l'adversité. Et là, en prêchant, je me demande bien s'il ne me faudrait pas les refaire. Pour qu'on comprenne bien combien Dieu peut nous éprouver. Mais on va terminer en remerciant le Seigneur. On se recueille, je ne sais pas où vous en êtes, mais Dieu il le sait. Je ne sais pas si vous avez une écharde dans le cœur. Je ne sais pas si vous êtes couvert de coups, intérieurement je parle. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui maîtrise l'échelle de Richter. Vous entendez mes frères et sœurs? Il y a un Dieu qui contrôle tout avec une précision infinie. Il sait comment faire juste pour que des portes s'ouvrent. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Dieu peut ouvrir une porte dans ta vie. Dieu peut faire tomber les liens. Vous savez, mes frères et sœurs, je l'ai dit au début, nous sommes dans des temps compliqués. Beaucoup vont abandonner la foi à cause de l'apostasie. Mais il y a des gens qui vont s'attacher à Dieu. Des vainqueurs, il y en aura. Et les vainqueurs seront des vainqueurs pour une simple et unique raison. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. On va avoir passé 2 heures ensemble. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 2 heures? Qu'est-ce que vous allez faire de ce merveilleux commandement? Prenez courage. Est-ce que vous allez l'oublier dans 5 minutes lorsque vous serez dans votre voiture en écoutant Radio Nostalgie? Et le diable aura en 5 minutes tout volé. Les oiseaux du ciel, vous connaissez la parabole? C'est ça qu'on veut? Que dans 5 minutes le diable nous ait tout volé? Ou est-ce qu'on veut ouvrir le cœur et dire: Seigneur, cette parole, je vais la vivre. Je veux la vivre. Je veux dans ma prison voir ce que tu vas faire. Je vais chanter avec mon cœur. Je vais prier, j'allais dire avec mes tripes, excusez-moi. Oui, mais avec tout mon être. Je veux voir la bénédiction dans ma maison. Vous la verrez. Vous la verrez. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je verrai tous mes enfants, tous, venir à toi. Vous le croyez, ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vos enfants soient sauvés? Eh bien, oui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ne priez pas pour gagner au loto, ça ne sert à rien. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais que vos enfants soient sauvés, ça, vous pouvez être sûr que c'est la volonté de Dieu. Que Dieu est avec vous quand vous dites: Seigneur, sauve mon fils, sauve ma fille. Dieu est avec vous, il n'est pas contre vous. Il est avec vous. Qui va chanter avec son cœur? Qui va prier avec son cœur? Qui va avoir la foi de dire: Seigneur, je suis dans la faiblesse, ouais, je fais que pleurer. Eh bien, c'est pas grave. Je parle pas d'apitoiement, je parle de pleurs. Jésus a dit: heureux ceux qui pleurent. Quand vous pleurez, parce que il vaut mieux pleurer parfois que s'endurcir, vous savez déjà, ils pleurent jamais. Eh bien, je les plains. Parce qu'ils se sont endurcis. Ça fait du bien de pleurer. Ça prouve qu'on est encore sensible. Jésus a pleuré, on l'a entendu ce matin. Il y a une prophétie qui l'a rappelé. Ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien de rire, mais les deux font du bien. Soyons intelligents. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est signé Jésus-Christ. Notre Père, tu as pris soin, avant d'être arrêté, abandonné, comme on l'a lu ce matin, crucifié, flagellé, couronné d'épines, avant qu'on ne te crache dessus, qu'on te cloue sur cette croix, tu as pris soin de nous dire tout ce que nous avions besoin de savoir pour terminer la course vainqueur. Tu savais qu'il viendrait ce matin. Tu nous aimes, Seigneur. Tu ne te trompes jamais. Tu connais mes frères, mes sœurs. Et nous te prions, Seigneur, tous, pour avoir l'attitude de Paul et Silas. Dans toutes les situations, les prisons, les adversités, les épreuves et les bénédictions, dans la faiblesse comme dans la force, nous voulons croire que lorsque nous nous confions en toi, c'est toi qui combats. C'est toi qui ouvres les portes et qui fais tomber les liens. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où on a essayé avec nos forces de changer les gens. Pardonne-nous, Seigneur, notre misère. Donne-nous de vivre remplis de ce courage. Et nous voulons prendre courage dans un acte de foi. Vraiment ce matin, Seigneur. Nous voulons apprendre ou réapprendre à ne pas nous laisser voler toutes ces vertus bénies qui viennent de toi. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir de tout notre cœur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen.